BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription des Yvelines viennent répondre à nos questions. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marouane Préaux, candidat de l'Union des démocrates et musulmans français. Jean-Marouane Préaux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 59 ans, vous êtes enseignant et vous êtes donc candidat avec comme suppléante Halima El Amerani. Première question, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter?
Alors, deux préalables déjà pour la présentation. Donc, j'ai 6 enfants, c'est quelque chose de très important pour moi. Deuxième chose, j'aimerais expliquer que l'Union des démocrates musulmans français, c'est un parti qui n'est pas confessionnel, ce n'est pas un parti islamiste, ce n'est pas un parti qui veut installer la charia, etc. C'est un parti qui cherche juste à se battre pour représenter une population qui est constamment stigmatisée, on en parlera après, mais depuis plusieurs années, et surtout depuis le débat sur l'identité nationale qu'avait installé Nicolas Sarkozy. Donc, pourquoi est-ce que je me suis présenté? Je vais vous dire que j'ai déjà été candidat plusieurs fois au nom de l'UDMF, pour les européennes, pour les municipales sur Paris, dans le 5e arrondissement, et également pour les régionales en tête de liste de la ville de Paris. Je me suis mis en retrait suite à cette opération, tout simplement parce que j'ai constaté des vices dans notre démocratie, des bulletins que nous avions dans des villes comme Garges-lès-Gonesse où nous avions plus de 6% des voix ont été annulés, tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur avait laissé le libre choix au président des bureaux de vote d'annuler ou non nos bulletins de vote. Donc je me suis dit qu'on ne pourrait jamais se battre contre une telle hydre. Et les derniers débats, à nouveau, remettant les musulmans français à toutes les sauces, que ce soit d'ailleurs plutôt à l'huile de tournesol, ce sont eux qui provoquent les ruptures d'huile de tournesol dans les rayons parce qu'ils font les briouates pendant le ramadan, ce sont eux qui font les ruptures d'huile de tournesol parce qu'ils font frire les moutons pour l'Aïd al-Fitr, c'est-à-dire l'Aïd de fin du ramadan, la fête de fin du ramadan. Tout cela, plus le débat sur la combinaison de bains dans les piscines, tout cela m'a montré que c'était un débat éternel, que le petit monde politique, à part certains, continuait à orienter 90% des Français contre les 10% des Français que représente la population des Français musulmans. Voilà, donc je me suis dit, il faut venir. Les gens ont peur, je vais vous le dire, de se présenter. C'est difficile de trouver des gens sur Mantes-la-Jolie pour être candidat. Moi, j'ai dû venir de Paris pour être candidat, je vous le dis très franchement. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils me disent, bah écoute, moi j'ai une demande de dossier HLM, j'ai peur qu'elle passe en dessous, moi je voulais partir envoyer mes enfants en colonie, j'ai peur que ça soit annulé, j'ai fait une demande de naturalisation, bon ceux-là sont pas candidats, mais j'ai peur qu'on me l'annule, etc., etc. Donc sachez qu'il existe une peur parmi la population, et pas que la population musulmane, il y a aussi toutes les autres populations qui sont traitées de second rang, et il faut qu'il y ait des gens qui se mettent en avant. Et ben moi je me suis dit, je suis de tradition, j'ai été éduqué dans la religion protestante. Vous savez que les protestants représentaient 10% de la population française à la fin du règne d'Henri IV. Le travail de sape de Richelieu a fait en sorte qu'ils représentent moins de 1% au bout d'une cinquantaine d'années, ce qui a permis à Louis XIV d'annuler l'édit de Nantes à la révocation. C'était juste la constatation du fait qu'il n'y avait plus de protestants quasiment en France. Donc cette première tradition, cette éducation protestante d'origine, plus le fait que on soit dans les valeurs républicaines très profondes, puisque mon grand-père, Jean Préaux, était non seulement un combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait à la fois la guerre en Belgique, puis en Alsace contre les Allemands en 40, et qui ensuite a été résistant, et qui a sauvé la vie de plusieurs familles juives, et aussi de 3 pilotes américains, qui sinon auraient été liquidés par les réseaux communistes qui ne voulaient s'en débarrasser. Donc tout ça, c'est une tradition de combat. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans l'UDMF, au niveau national, nous avons plusieurs petits-enfants de résistants.
Alors après cette présentation très complète, un mot sur les élections présidentielles qui se sont écoulées. Que pensez-vous de la réélection d'Emmanuel Macron?
Il n'y a pas eu de campagne électorale. On a parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé de l'inflation, tant mieux d'ailleurs, mais très très peu de campagne électorale, pas de vrai débat. Parce qu'on avait un débat, en fait. La première chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que 75% des candidats défendaient des thèses islamophobes, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Monsieur Z ou que ce soit le RN. Plus une partie des gens qui sont derrière M. Macron. Quand on voit M. Darmanin, il y a une politique qui est quand même extrêmement orientée contre la population des Français musulmans. Donc j'ai été extrêmement déçu déjà de ce que ça donnait comme image de notre beau pays qui est la France. Comme je dis, moi j'aime la France de Henri IV, j'aime la France de Mirabeau et de Simone Veil, de Jules Ferry. Je n'aime pas trop la France de Pétain, des Guises, des Cagoulards, des Ligues et de l'OAS.
On va parler tout à l'heure de votre programme, mais avant cela, plusieurs questions sur ce qui intéresse les auditeurs. D'abord, que pourriez-vous faire pour améliorer le pouvoir d'achat ?
Alors, les populations que nous représenterons, quoi, nous nous adressons à des gens qui sont souvent en bas de l'échelle. Et d'ailleurs, ce qui dérange, c'est qu'ils progressent. Hein. Donc déjà, il faudrait enlever un cliché, c'est que tous les musulmans ne sont pas des ouvriers. Vous avez des, je connais, je travaille moi avec des musulmans qui sont analystes financiers dans des grands groupes bancaires et des consultants, etc. Quoi. Je ne vais pas refaire une liste, je ne vais pas faire ma Morano avec sa femme de ménage comorienne. Donc, juste pour dire qu'il faut sortir de ce cliché de du musulman forcément ouvrier. Ceci dit, une grande partie de la population musulmane et toutes les populations des quartiers qui comportent bien plus de personnes qu'uniquement les musulmans souffrent et sont vraiment dans les difficultés. Déjà, avant de parler du pouvoir d'achat, il y a une question qui n'est pas complètement résolue. Le gouvernement se gargarise de bons résultats du chômage, mais la réalité des gens, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été sortis des chiffres. Du chômage ou qui se sont sortis eux-mêmes parce qu'ils n'y croient plus et qu'ils font des petits jobs à la sauvette. Donc, il faudrait avoir une analyse un petit peu plus précise. Les chiffres sur lesquels se repose le gouvernement sont aussi les chiffres de la catégorie 1, donc les gens qui n'ont pas du tout de travail. Mais moi, je connais des tonnes de personnes, et je vais vous parler de ces populations dont on a parlé, mais également des gens qui ont fait Polytechnique, qui ont fait HEC, qui ont plus de 50 ans, qui sont mis à la rue par les grands groupes et qui ne peuvent travailler que sur des petites missions hétérogènes, se font leurs propres projets et ne gagnent même pas 1500, 2000 euros net par mois. Donc, il y a un problème de sorte de chômage endémique partiel. Donc ça, c'est un premier problème à résoudre parce que c'est bien de parler de l'augmentation des salaires, mais ça va rendre juste la vie difficile, encore plus difficile pour ces gens. Alors ensuite, le vrai chômage, le vrai problème, c'est l'inflation. L'inflation, moi, je la voyais venir depuis 3 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'économie, quand on gonfle la M2, c'est-à-dire la masse monétaire, avec du quantitative easing, c'est-à-dire en faisant tourner la planche à billets, c'est-à-dire en faisant plein d'euros, on imprime des billets d'euros ou des billets en dollars, parce que les Américains ont fait la même chose. Forcément, à un moment ou l'autre, la monnaie se dévalue et donc les prix augmentent. Parce que ceux qui vendent, ben, ils veulent en avoir pour leur argent. Donc l'inflation était prévisible. Et on sait à qui c'est dû. C'est dû à toute cette politique d'impression de billets de banque. Donc cette inflation, on aurait pu anticiper. On aurait pu mettre en place des systèmes, par exemple, d'indexation un peu plus rigoureuse du SMIC sur l'inflation, etc. Donc nous, on a, bon, pour faire simple, dans notre programme, on veut fixer un SMIC à 1500 euros net avec... De toute manière, cette prudence à prendre que 1500 euros, vous savez, dans 3 ans, si vous avez une inflation de 10%, ça sera plus rien. Donc, avec une indexation sur l'inflation qui est garantie. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a une autre chose. Nous, on lit beaucoup Piketty à l'UDMF, Thomas Piketty, qui est pour nous un grand penseur. D'ailleurs, son nom, Le Capital, il le mérite. C'est au même niveau que Marx. Et Thomas Piketty, enfin, faut lire les 1000 pages parce que c'est à la fin qu'on découvre certaines choses lorsqu'il parle des super cadres. Alors il explique structurellement dans son livre que ce sont les gens qui ont les capitaux qui vivent grâce, c'est les 1%. Là, on parle même pas des 1%, on parle des 0,1% les plus riches qui vivent de dividendes. Eux, ils n'ont pas de salaire, c'est les dividendes. Mais il explique que vous avez ce qu'on appelle des super cadres. Alors, il donnait l'exemple du PDG de Disney, par exemple. Qui sont devenus des milliardaires par leur stock options, c'est-à-dire les options d'actions qu'ils ont, les possibilités d'acquérir, d'être payés en actions de leur groupe. Et donc, ces gens-là, maintenant, deviennent des personnes qui ont des salaires de plusieurs millions de dollars, d'euros, quand c'est en Europe, en Allemagne, en France. Et il y a un moment où nous sommes un parti qui est quand même porté, comme les chrétiens démocrates, donc nous sommes les musulmans démocrates, mais par des valeurs humanistes importantes. Et on pense qu'il faudrait, au niveau international, installer la notion de revenu maximum décent. Et il y a une règle que l'on pourrait respecter. Quand vous savez que dans les principes, tous les principes de management expliquent que vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un si vous passez moins de 5% de votre temps avec cette personne. Si vous faites 5%, ça veut dire que vous ne pouvez pas gérer plus de 20 personnes. C'est-à-dire que votre mérite personnel ne peut pas être supérieur à 20 fois ces personnes. Donc, nous sommes pour le plafonnement des revenus à un niveau que nous appelons le revenu maximum décent, qui est 20 fois le SMIC.
Il nous reste 10 minutes, Jean-Marwan Préau, pour évoquer tout le reste. Deuxième question, vraiment d'un point de vue national et ce qui nous intéresse. Que pensez-vous de la réforme des retraites à 65 ans?
Alors, nous sommes, pour que l'on parle des annuités, l'âge ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui a commencé de travailler à 14 ans, pour nous, eh bien, au bout de 40 annuités, il devrait pouvoir partir, même si c'est 54 ans. D'ailleurs, vous avez ce système qui est plus ou moins non-dit, mais qui s'applique à la gendarmerie et à l'armée. Ce sont des gens qui prennent des risques et donc ils peuvent partir à la retraite plus jeune. Donc nous, nous prenons un départ à la retraite au bout de 40 annuités sans limite d'âge. Voilà, vous avez fait vos 40 annuités, vous pouvez partir à la retraite.
Un petit mot sur l'actualité locale. Il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville. Est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de cette prison dans la commune?
Alors, vous savez que le mandat de député est un mandat national, d'accord? Vous avez sûrement entendu parler de la surpopulation carcérale, des rats qui sont à Fresnes ou à Fleury-Mérogis, etc. Donc il y a une nécessité de construire plus de maisons d'arrêt. Il y a une nécessité aussi, là, je pense que l'aménagement des peines est quelque chose d'important, mais je pense que c'est plutôt bien fait, pour que des personnes, notamment en préventive, soient moins envoyées systématiquement en prison. Ensuite, il y a un deuxième souci. qu'on a entendu évoquer à propos, par exemple, des séparatistes corses, les vrais séparatistes. Donc, qui était la proximité des familles. Donc, ici, nous sommes dans un bassin de population où vous avez beaucoup de jeunes. Malheureusement, parmi ces jeunes, il y en a qui font des bêtises et qui se retrouvent en maison d'arrêt. Et donc, si vous avez une maison d'arrêt qui se situe dans la circonscription, eh bien, ça rendra la vie de leur famille, parce que leurs familles n'ont rien fait. Plus facile, et surtout ça leur permettra de garder un lien avec leur famille. Et garder un lien avec leur famille, c'est un premier pas vers la réintégration sociale. Donc nous sommes a priori pour ce projet.
Alors on va donc parler de votre programme en ciblant plusieurs points. Donc vous avez parlé d'une de vos priorités, c'est de lutter contre l'islamophobie. Quelle loi faudrait-il modifier ou supprimer?
Alors déjà nous sommes pour la pénalisation des propos islamophobes. C'est le musulman ou alors l'agression. Il y a des agressions, on n'en parle jamais parce que c'est pas très porteur au niveau des médias, mais des femmes qui sont agressées parce qu'elles portent le voile, on leur arrache le voile. Une femme à Toulouse s'est fait agresser à coups de couteau, mais tout ça on n'en parle pas trop. Donc déjà, pour que l'islamophobie, comme l'homophobie, comme la grossophobie, etc., soit pénalisée. La deuxième chose, nous sommes pour le retrait de la loi dite contre le séparatisme, parce que ce n'est pas une loi qui est contre le séparatisme, c'est une loi qui est faite et qui vise uniquement une partie de la population française et qui marque un refus de la différence. Donc nous sommes pour l'abrogation de cette loi. Et il y a un autre sujet qui est important, qui est lié à cette loi, mais qui est intéressant, parce que j'étais passé, je crois que c'était sur BFM, on l'avait évoqué, qui était la charte de la laïcité. Moi, la charte de la laïcité, je l'ai dit, pourquoi pas la signer si toutes les communautés religieuses la signent? Mais je ne vois absolument pas pourquoi une logique coloniale ou néocoloniale demanderait à ce que ce soit uniquement les religieux musulmans qui soient obligés de la signer. Je pense que toutes les religions, y compris les évangélistes, les juifs, les hindous, les sikhs, les catholiques, les protestants, les luthériens, les calvinistes, etc., tous devraient signer et cette charte ne sera valable que quand tout le monde aura signé.
On passe à l'éducation à présent. Vous souhaitez, je cite, le rétablissement d'une éducation publique digne de ce nom. Que faut-il améliorer selon vous?
Alors on a parlé de chômage, on a parlé de pouvoir d'achat. Pour moi, bon, je suis enseignant, je parle peut-être pour ma paroisse, mais je vais vous le dire à tous ceux qui m'écoutaient, la clé de tout c'est l'éducation. Que ce soit d'ailleurs dans le comportement des personnes ou que ce soit dans leur capacité à trouver une carrière en France ou à l'étranger. Parce que beaucoup de jeunes de la région vont chercher un travail au Canada ou dans d'autres pays. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'éducation qui va créer votre structure mentale, qui va vous permettre d'être capable de sélectionner ce qui va vous correspondre et de développer les compétences qui vont être liées à ce que vous voulez faire. Donc, nous sommes pour vraiment la... Pour le moment, l'éducation nationale n'est plus un ascenseur social, c'est une cordeliste sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui tractent comme des malades qui arrivent à grimper. Donc nous voulons le rétablissement de l'ascenseur social à travers l'éducation, ce qui nécessite d'énormes investissements, bien plus prioritaires que certains autres investissements. Donc, premier investissement, le plus important pour nous, c'est les matières technologiques, parce que le futur, c'est l'informatique, l'intelligence artificielle et les maths. Donc, rétablir, mais fortement et très tôt dans l'éducation, ces matières scientifiques. Deuxièmement, ça vous paraît peut-être surprenant, mais pour nous, notamment dans les quartiers, la détection des ce qu'on appelle les surdoués. Je vais le dire juste pour que les gens comprennent bien, le terme officiel, c'est les enfants précoces. Pourquoi ? Parce que j'ai connu beaucoup d'enfants précoces qui sont devenus dealers ou autres et qui ont quitté le système scolaire à 12 ans, à 13 ans, parce que les profs n'étaient pas à leur niveau, tout simplement. Donc, il faut les détecter et il faut faire des filières dédiées à ces enfants précoces dans les quartiers. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que l'ascenseur social va pouvoir réellement arriver parce que vous avez des enfants précoces dans toutes les... potentiellement dans toutes les familles, quel que soit leur niveau de vie. Donc ça, c'est un point important et les orienter vers des filières d'excellence. Pour les étudiants, de la même manière, nous sommes pour qu'il y ait des bourses plus sélectives mais plus importantes, c'est-à-dire que ces bourses soient concentrées sur les étudiants dont les parents ont un patrimoine, je suis toujours un peu piquetti, l'importance des différences de patrimoine, un patrimoine inférieur à 100 000 euros, et que donc leur bourse soit beaucoup plus importante avec un accompagnement pour les aider à réussir leurs études et les orienter vers des filières porteuses de travail. Il faut quand même, à un moment ou l'autre, qu'on arrête des systèmes comme Parcoursup qui orientent des personnes vers la sociologie. Moi, j'ai vu un jeune, alors c'était de la Hauteville à Montreux, qui avait été orienté, vous voyez, un jeune de 15 ans, comme il était hôtesse d'accueil, un garçon. Hein. Il avait été orienté vers une formation hôtesse d'accueil. Moi, je peux vous dire qu'il n'était pas très motivé. Donc voilà, il y a un problème de détection des talents, d'augmenter les professeurs. Vous savez que les professeurs français sont largement en dessous de la moyenne nationale. Donc, je ne parle pas pour ma paroisse, c'est le cas de le dire. Je parle pour tous les professeurs qui m'écoutent. Je suis pour une augmentation à 10% au-dessus du niveau de la moyenne européenne. Je pense que la France le mérite. L'éducation, c'est le futur de la France. Là, en ce moment, on est en train d'aller dans le mur. On a une jeunesse qui n'est pas adaptée. Je suis professeur. Vous avez des jeunes en master qui écrivent des phrases incompréhensibles. Donc, c'est un vrai problème, parce qu'ils ne se feront jamais recruter, ou en tout cas, ils auront des gros problèmes pour communiquer dans les entreprises. Alors, l'autre point qui est important, c'est la sécurisation des établissements. Et dedans, il faut donc que les jeunes soient sereins. Et pour être serein, c'est une lutte acharnée, avec des outils de prévention appliqués, des accompagnateurs, des ressources pour lutter contre le harcèlement scolaire. Je sais que c'est fait plutôt pas mal par le gouvernement, mais c'est aussi quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que quand on est bon, on est souvent harcelé par les autres. Donc, nos filières d'excellence devraient permettre d'éviter ce problème, mais vous avez des enfants qui ne sont pas forcément surdoués, mais qui sont de bons élèves, et ces enfants-là ne devraient pas être tirés vers le bas par des enfants qui, eux, ne veulent pas jouer le jeu. Voilà, donc là, je pense que je vais pas vous faire une liste, on a encore beaucoup de choses, mais on a les top priorités. Si, il y avait un point important, c'est que dans les quartiers, beaucoup d'établissements scolaires sont proches des axes routiers et que nous voulons qu'il y ait systématiquement des purificateurs d'air dans les bâtiments pour que là aussi, que nos enfants et nos jeunes ne se fassent pas intoxiqués par les particules fines lorsqu'ils font leurs études, car la plupart des bâtiments scolaires sont en rez-de-chaussée au premier étage.
On aborde à présent la thématique de l'environnement. Quelles sont vos propositions en ce sens ?
C'est un thème qui nous importe, qui est très important pour nous, parce que, je vais reprendre nos valeurs humanistes, nous sommes très liés à la création divine, en quelque sorte, comme les chrétiens démocrates. La terre, c'est la création et il faut absolument la préserver. Donc, moi-même, je fais partie d'un groupe de permaculture et je connais un groupe de musulmans permaculteurs et qui sont très impliqués là-dedans, qui essayent de faire d'ailleurs des communautés tournées vers la permaculture. C'est plus important presque que le bio, parce que la permaculture, c'est une philosophie qui est de dire nous allons planter les plantes dans une logique de la nature. Donc, les plantes qui doivent être à l'ombre, on va les mettre sous les arbustes, etc. Cette permaculture, c'est une technique très poussée, mais qui permet d'avoir des rendements énormes, sans utiliser de machines souvent. Donc, qui nous permettrait, si elle était généralisée, de réduire notre dépendance au pétrole, par exemple, parce que actuellement, il n'y a pas de blé sans pétrole. Les tracteurs consomment des quantités énormes de tracteurs. Donc, nous sommes pour ça, pour la permaculture, l'aménagement du travail avec notamment l'encouragement à faire du télétravail, ce qui est fait actuellement, mais que nous voudrions renforcer. Et puis nous sommes bien sûr toujours pour les modes de déplacement doux que sont les véhicules électriques pour les distances moyennes, les hybrides pour les distances longues, et les vélos, les trottinettes pour les distances courtes.
Et puis un dernier mot sur la santé. Qu'est-ce qu'il y a des choses à améliorer selon vous ?
Alors s'il y avait une deuxième priorité après l'éducation, eh bien il y aurait la santé. Hein. Donc la santé c'est un drame actuellement. Vous avez vu le problème des urgences à Bordeaux qui ne peut plus faire face. Et ce qu'il y a de dramatique, si vous voulez, j'ai vu une manifestation. Moi c'était avant la crise du Covid où déjà le personnel annonçait vous allez faire des millions de morts. Bon ça n'a pas été des millions, mais nous sommes dans un système où il y a un double problème. On a un problème, comme pour l'éducation, de deux vitesses. Le public, qui est complètement sacrifié, et le privé, où ceux qui ont des moyens orientent leurs enfants. Et la deuxième chose. Donc, on a la même chose pour la santé. Si vous n'avez pas les moyens, vous serez orienté vers des gens, des services débordés, avec des médecins qui parfois sont pas complètement compétents, alors que ceux qui ont des moyens iront dans le système privé. Donc, on a actuellement tout un débat autour de professeurs dans des grands hôpitaux publics qui réduisent de plus en plus leur temps consacré au temps public et qui se consacrent de plus en plus au temps privé parce qu'ils sont payés 5 fois plus. Donc, ça, c'est un problème très, très important. Et l'autre chose, c'est le paiement, le salaire des personnes qui font le travail. Si vous regardez le travail d'une infirmière, d'une sage-femme, moi j'en ai beaucoup connu dans un métier précédent, on distribuait les colis pour les jeunes mamans dans les maternités, donc j'avais beaucoup parlé avec des sages-femmes qui se sont pris les 35 heures en direct, c'est-à-dire qu'elle était cadre, donc elle devait faire tous les horaires, compenser tous les horaires des puéricultrices, des assistantes puéricultrices. Donc on a des gros problèmes d'organisation, et ça, on parle encore de milliards. Donc je pense que la France n'a malheureusement plus des moyens énormes, quoi qu'il en coûte, nous a énormément endetté, mais je pense qu'il faut réattribuer vers ces top priorités qui sont 1. L'éducation, 2. La santé. Parce que la santé, ça nous concerne tous et que nos parents, ben, nous voulons les voir vivre le plus longtemps en bonne santé.
Merci à vous, Jean-Marouane Préau, d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie aussi et je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui ont bien voulu m'écouter.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à 13h et à 18h30 et vous pourrez la retrouver également en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Demain à 7h30, nous recevrons François Blaise, soutenu par le Parti Animaliste, et à 8h30, nous accueillerons Jacques Lefebvre, candidat du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.